bienvenue à Je vais au ciné. Aujourd'hui, j'ai avec moi Mickaël.
Bonjour.
Bonjour Mickaël. Et Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine. Vous êtes tout calme aujourd'hui.
Ça se réserve pour la suite.
Se réserve.
Vous réservez.
C'est que ça va fighter.
Ça va fighter dur. Alors, aujourd'hui, bon. C'est moi qui vais faire une petite chronique rapide, pas très très longue, parce que je vais...
Parce qu'il faut bien que tu bosses aussi.
Ouais, faut que je bosse un peu, et puis que j'avais pas tellement le temps, et que je me suis dit, tiens, je vais parler d'un film. J'ai envie de parler de celui-là.
Et sans mon émission, je fais ce que je veux.
Voilà.
Mais tu as bien raison.
Et voilà. Et depuis quelques temps, je refais la liste des films que j'ai vus, et je cherchais le titre d'un film que j'avais complètement oublié, mais dont le film m'avait marqué. Je me souviens de ce film, je sais pas pourquoi, mais... Ce film, j'ai fini par le retrouver et c'est Notre petite sœur du réalisateur. Alors ça va se compliquer, hein, je vous le dis tout de suite. Hirokazu Kore-eda.
Kore-eda.
Voilà. Ça se complique parce que de toute façon, dès que c'est un nom compliqué, j'ai du mal.
C'est le même Kore-eda ou ils s'appellent tous Kore-eda?
Non, c'est le même Kore-eda qui fait la vérité. Oui.
Ouais. Mais je vais y venir. C'est une adaptation d'une série de mangas. Qui nous plonge dans une maison habitée par trois sœurs, Sachi, Yoshino et Shika. Et comme elles aiment l'appeler, ce lieu est un dortoir pour filles. Elles apprennent le décès de leur père et vont à ses funérailles. Lors de cette cérémonie, elles rencontrent leur demi-sœur Suzu et la troisième femme de leur père, la belle-mère de Suzu. Bon, pas la mère de Suzu. Voilà, la mère de Suzu, c'est la deuxième femme de leur père.
Tu veux nous faire un arbre généalogique là?
Non, mais c'est pour expliquer les différents. Voilà. Sachi, l'aîné, se reconnaît dans cette jeune sœur et l'invite à les rejoindre chez elle, donc dans leur maison familiale. Les sœurs ayant toutes trois un travail peuvent s'occuper financièrement de leur jeune sœur. Et puis plutôt qu'elles soient avec leur belle-mère avec qui elles s'entendent pas, c'est quand même mieux qu'elles soient avec leur sœur. L'adolescente accepte rapidement et c'est le début d'une nouvelle dynamique dans cette maison, qui ne comprend plus trois mais quatre sœurs. Suzu apporte une fraîcheur dans les relations de ses aînés et recrée des liens un peu perdus. Cela donne aussi des nouvelles responsabilités à Chika, la cadette, et une jeune sœur comme elle l'avait réclamé, enfin, et plus jeune en tant que sœur, elle avait réclamé une petite sœur. Et pour Yoshino, ça lui donne plus de maturité et d'implication. Alors c'est la sœur entre deux, c'est celle qui est ni la plus âgée ni la plus jeune.
La Benjamine.
Et ça l'implique un peu plus dans son travail et dans la vie de la famille, puisque jusque-là, elle se débrouillait pour sortir et boire comme un trou. Elle commence à se calmer en fait dans le film et c'est intéressant de voir son évolution. Sachi apprend petit à petit à accepter son passé et de se tourner vers l'avenir. Comme elle s'est toujours occupée de ses sœurs, elle a tendance à rester dans cette routine. Elle est infirmière et elle reste dans sa routine. Et sortie de ça, elle a pas une vie personnelle, ou peu qu'elle a de vie personnelle, c'est aussi devenu une routine. Ce film dure à peine plus de 2 heures. Alors, c'est un film court, hein, parce que 2 heures, pour vous, c'est court. Et parle d'une tranche de vie dans un Japon moderne se déroulant dans une ville côtière. On ressent tout au long du film une certaine nostalgie du temps passé, des gens disparus ou partis. La vie coule plutôt paisiblement dans ce petit bout de Japon. Le film nous plonge pas dans une grande tragédie, mais nous emporte dans un doux courant. On se laisse flotter par les différentes histoires des personnages, avec au centre de ce film Suzu et Sachi, les deux, la plus jeune et la plus âgée. Je suis sûr que si les deux personnages qui m'accompagnent dans cette émission avaient vu ce film, ils m'auraient certainement dit qu'il y avait trop de scènes longues et inutiles. Pourtant, je trouve que ces scènes apportent quelque chose sur ce que j'essaye de nous dire de ce film. Qu'essaye de nous dire ce film, plutôt. Ces scènes placent les relations entre ces sœurs au-delà des souvenirs en commun et leur permet de partager des souvenirs de famille inconnus ou oubliés pour leur permettre de créer des liens ou tout simplement de se rapprocher. Elles ont toute leur personnalité et chacune apprend ou réapprend à trouver sa place dans cette famille. Le film n'est pas exceptionnellement beau, ni fait preuve d'une mise en scène à couper le souffle, mais la profondeur du scénario et des personnages vous embarquent dans cette histoire. Ce film a été dans la sélection officielle du Festival de Cannes de 2015. Le réalisateur obtient 3 ans plus tard la Palme d'Or pour le film Une affaire de famille. Je n'ai pas vu ce film,
Très bon film d'ailleurs.
Très bon film.
Mais très bon film.
Mais je pense qu'il mérite tout autant un visionnage que notre petite sœur. Le réalisateur a sorti récemment La Vérité en décembre dernier avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Dans notre petite sœur, les actrices collent bien à leur rôle et leur interprétation est réussie. Sans ça, tout le film n'aurait aucun intérêt. Le doublage n'est pas extraordinaire, mais ne fait pas ridicule. J'ai même reconnu la voix de doubleur français de films d'animation japonais. Au final, ce film m'a plu. Pour sa simplicité, pour son calme, pour le tout développé dans la vie quotidienne japonaise. Ces quatre personnages forment une famille unie, malgré les différences, et c'est là le plus important pour elle, après tout. Donc, après ce film, moi, ce que je peux en dire en dehors de ma chronique, c'est que c'est un film qu'il faut prendre le temps de regarder. Il se laisse regarder. C'est-à-dire que n'essayez pas d'y trouver un sens tout de suite. Le sens vient au fur et à mesure.
Une affaire de famille, c'est pareil. Hein. Tu comprends pas tout de suite les rapports qu'il y a entre les personnages.
Oui, mais après, ça, c'est un peu... alors, je connaissais pas ce film de Kore-eda. Je suis pas un connaisseur du réalisateur, puisque j'ai vu qu'une affaire de famille. Mais j'ai l'impression que si on considère tout ce que tu disais sur notre petite sœur, c'est ça ?
Oui, notre petite sœur,
une affaire de famille, et plus récemment La Vérité. On a l'impression que le réalisateur est un petit peu obsédé par les relations familiales.
Oui.
Parce que c'est toujours les relations familiales qui sont au centre de ce film, au moins sur ces trois films en tout cas.
Avant La petite sœur, là, deux ans avant.
Il y avait Tel père, tel fils.
J'ai fait Tel père, tel fils, qui était grand prix du jury à Cannes. Ouais. Et pareil, qui est bien. Et c'est la version japonaise de La vie est un long fleuve tranquille, en fait, où deux enfants sont échangés à la naissance. Un dans une famille bourgeoise et l'autre dans une famille, on va dire, populaire.
Donc, du coup, encore des histoires encore de famille.
Ah, mais c'est que ça. C'est son sujet.
C'est son sujet, ouais.
Et il le maîtrise plutôt bien et il le fait bien. Donc, ça marche. Après, vous attendez pas un film d'action. Voilà, on en est très très loin.
C'est pas l'image du réalisateur.
Ouais, voilà. Kore-eda, film d'action. Franchement, rien que le jour où il fait ça, je vais voir. Hein. Je prends ma place en avance là.
Non, mais je pense que ce sera pas intéressant puisque c'est pas son truc, donc ça n'a aucun intérêt. On va enchaîner sur une petite musique. Je pense qu'on va s'écouter. Allez, une petite comptine d'un autre été, l'après-midi, de Yann Tiersen pour Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On reste dans un truc assez calme.
C'est pas du rap, tu devrais aimer cette fois-ci.
Thank you.
Nous revoici à Je veux au ciné, avec ce moment de calme et de reposant.
On était bien.
On était bien.
Ce moment mais d'apaisement.
Mais je pense qu'on va pas être apaisé après. On va parler de The Nice Guy, de Chen Blake.
Black.
On s'en fout. Enfin, c'est Black.
Black. Comme la couleur.
On s'en fout.
J'adore ton accent anglais.
Voilà, moi aussi. Chacun son truc. Qui en parle en premier? Qui en fait le résumé?
Je vais me tenter dans le.
Tu vas le faire.
L'introduction.
Allez, vas-y.
Donc, The Nice Guy, c'est un, donc comme très bien dit Seb, un film de Shane Black. Shane Black avec.
M'exaspérer.
Avec un acteur, on a donc en acteur principal Russell Crowe et Ryan Gosling.
Yeah.
Avec
un peu de Karim Basinger.
Voilà, la quatre lignes. Et on les retrouve aidés d'une. D'une petite enfant.
Angourie Rice.
Voilà, je ne savais pas comment elle s'appelait.
Angourie Rice.
Et donc, alors, l'histoire raconte. Donc, en fait, Russell Crowe et Ryan Gosling sont deux détectives privés qui ont deux salles, deux ambiances. Hein. Il y en a un qui se laisse aller, alors que l'autre, il est plutôt. Aller taper le.
Dans le vif du
c'est
sujet.
Ça, ouais. Il s'implique physiquement dans ses enquêtes.
Il est payé surtout pour taper des gens. C'est plus que d'enquêter.
Et donc ils sont obligés de s'allier en fait pour retrouver une fille qui est donc la fille de Kim Basinger, l'actrice je sais pas comment elle s'appelle. Et donc on va retrouver donc un film de qui est un peu la spécialité de Shane Black en fait, qui est le buddy movie.
Buddy movie.
Ouais. Alors avant de rentrer un peu plus dans le film, je voulais parler du réalisateur parce que c'est pas un réalisateur qui est très connu. En tant que réalisateur, d'ailleurs, il n'a pas fait beaucoup de films. Son dernier film, c'est le remake de Predator.
Oui, et puis dans les films qu'il a fait, il n'a pas toujours.
Donc il s'est fait connaître avec.
Kiss Kiss Bang Bang.
Donc il a eu son petit succès à l'époque où il est sorti, mais qui n'a pas non plus. Était un carton stratosphérique.
Ce qui a fait le plus. Enfin, ce qui a le plus aidé ce film. Enfin, c'est plutôt l'inverse. C'est l'acteur qui est dedans, ça l'a propulsé. C'était
Robert Downey Jr.
qui revenait d'une période où il était vraiment très très bas et ça lui a permis d'être un tremplin.
Les deux, initialement. Il y a aussi Val Kilmer aussi. Sauf que Val Kilmer, ça l'a pas aidé à sortir du.
Initialement, donc Shane Black était connu pour être un scénariste et il a été dans les années 90 le scénariste le mieux payé d'Hollywood en fait. Donc c'est à lui qu'on doit notamment ce qui fait un peu son genre d'ailleurs.
L'arme fatale. Predator.
Predator, c'est vrai que Predator, alors, c'est peut-être
Last Action Hero,
Buddy Movie, le chasseur et le chassé, mais donc forcément, comme toute personne qui est portée au nu, à un moment elle va chuter. Il a scénarisé quelques films qui se sont cassés la figure, et il est tombé aux oubliettes en fait, et on n'a plus tellement entendu parler de lui.
Notamment Last Action Hero, qui s'est rétamé à sa sortie.
Et qui pourtant qui était bien.
Qui n'était pas si mauvais.
Et donc, il est revenu après, donc, dans sa deuxième vie hollywoodienne en tant que réalisateur, et avec donc, son premier film Kiss Kiss Bang Bang, où, donc, comme vous disiez tout à l'heure, il y a Robert Downey Jr., en fait, qui a permis. Donc, Robert Downey Jr., à l'époque, était quand même has-been
et
au-delà.
Bah, c'est surtout qu'il était sous. Enfin, il a essayé de faire sa cure de désintox.
Non, mais c'est ça, bon, il n'était plus du tout. Il était plus aussi bankable qu'il l'était.
Carrément,
aujourd'hui.
Il était en bas de la. Il était tout en
et
bas.
Et en fait, à travers ce film-là. Robert Downey Jr. est revenu en fait sur le devant de la scène, ce qui lui a permis après d'être engagé par Marvel pour Iron Man. Et quand il a fallu tourner Iron Man 3, en fait, donc Robert Downey Jr. a appelé donc Shane Black, qui était le réalisateur d'Iron Man 3, qui lui a permis d'avoir donc du succès, ce qui est peut-être, je pense, son plus gros succès. Et ce qui lui a permis après donc à Shane Black de se remettre dans les rails en tant que réalisateur et de sortir donc son troisième film, donc The Nice Guy. Qui je pense à l'époque n'a pas marché des masses parce que quand on en parlait entre nous tous les deux là, je suis pas sûr que vous connaissiez le film.
The Nice Guys, je l'avais pas vu.
Ou alors vous connaissiez peut-être sans l'avoir vu. Enfin, je pense que ça c'est un film.
Personnellement, je ne connaissais pas, mais je ne connaissais pas non plus Kiss Kiss Bang Bang.
Moi, je le connaissais.
Moi, je connaissais.
J'ai connu Shane Black avec Iron Man 3 qui est sorti en 2013. J'en avais jamais entendu parler ni d'Eve ni d'Adam avant, donc je sais pas si je suis une bonne référence à demander si Nice Guys est sorti.
Je sais plus lequel j'ai vu entre Kiss Kiss Bang Bang et Iron Man 3, mais ça se joue pas à grand chose, j'ai dû découvrir.
Je pense qu'à la limite, son Iron Man 3, c'est pareil, voilà, c'est un Marvel, c'est pas là où on connaît, je pense, le genre de
mais il a quand même amené sa patte sur un certain nombre de choses, des choses qui ont été décriées d'ailleurs par les fans des comics Marvel, notamment dans le traitement du méchant incarné par Ben Kingsley, le Mandarin. Alors si je fais un petit point rapide comics, dans le Mandarin dans les comics, c'est un méchant qui est iconique, qui est quasiment le méchant le plus connu d'Iron Man dans les comics, avec qui a 5 anneaux extraterrestres qui lui donnent des pouvoirs de ouf. On va simplifier. Et dans le film, en fait, c'est un homme de paille, en fait. Il est payé par le vrai méchant du film pour faire croire à Tony Stark que c'est lui qui lui en veut. Voilà. Et ça, auprès des fans hardcore des comics, ça passe pas. Et j'ai envie de dire à ces fans de comics qui critiquent les adaptations, si t'as envie de voir la même chose que t'as en BD, tu relis la BD et tu regardes pas le film. Voilà. Voilà. Moi, je tout de suite, voilà, on pose les bails comme ça. En revanche, tout ça pour dire que Shane Black a quand même réussi à apporter un petit peu sa patte dans le milieu très calibré des blockbusters Marvel, dans le sens où si vous regardez Iron Man 3 et que vous enchaînez derrière avec Avenger 2, et ben vous remarquez qu'en fait pour Avenger 2, le personnage de Tony Stark, ils l'ont fait régresser parce qu'il l'avait tellement fait évoluer. Iron Man 3, quand on regarde Iron Man 3, on peut considérer que l'histoire de Tony Stark est achevée, on est arrivé à la fin, voilà, il a évolué, il a compris, il s'est accompli, fin du film, nickel, il n'y avait pas grand chose d'autre à raconter, et les producteurs s'en sont rendus compte et ils se sont dit, bah mince, Robert Downey Jr. a encore signé pour les prochaines Avengers, on n'a plus rien à raconter sur ce personnage, qu'est-ce qu'on va faire, et ben on va le faire régresser pour que l'histoire du Avenger 2 soit crédible. Donc voilà, je pense que voilà, c'était juste pour mettre ce petit point que Shane Black, dans une grosse machine calibrée, a réussi à quand même à apporter quelque chose.
Donc quand on a discuté entre nous de quel film on parlerait, bah, je vais proposer ce film-là parce que je trouve que c'est un film qui est donc méconnu, qui a, je pense, pas spécialement marché. En plus, dans d'anciennes émissions, je me suis amusé à envoyer des fions sur Ryan Gosling, j'ai toujours trouvé un peu monolithique, et je trouve que dans ce film-là, où il joue le rôle un peu désabusé, qui a plus envie de boire des canons que d'enquêter, je trouvais qu'il était mais parfait, en fait.
Génial.
Il est parfait.
Ah, il est purement génial.
Il a des scènes, enfin c'est il est d'un calme, je trouvais ça excellent. Et
son rôle le plus déjanté.
Bah c'est surtout son rôle qui le change.
Oui, ça change de ce qu'on
change de ce qu'il fait d'habitude,
ouais.
Hein, parce
carrément, là c'est.
Oui, c'est
et ils sont donc génial. Accompagnés d'une petite fille qui, moi, je trouve, qui joue aussi super bien. Au final, c'est elle qui fait avancer l'histoire.
Bah, en fait, on retrouve un petit peu la structure classique. C'est le père adolescent qui a pas fini sa mue, et puis la gamine qui a grandi trop vite et que c'est elle l'adulte de la maison.
Moi, je trouvais que ça ressemblait un peu à Inspecteur Gadget, tu vois, le personnage qui enquête, qui est complètement mauvais. Et puis la gamine qui fait tout le boulot, et c'est un peu ça, quoi.
Alors il est pas mauvais, il se laisse aller. Parce qu'il y a quel moment on dit, en fait t'es vraiment mauvais. Ah ouais. Et pendant que vous étiez en train de m'envoyer des fions, j'ai résolu l'affaire, les gars.
Oui.
Et puis quand il arrive à faire avancer
l'enquête. Oui, mais il a des coups de chance, quoi.
Quand il arrive à faire avancer l'enquête, il est pour rien.
Soit
il tombe, soit il fait une supposition qui est mal placée.
Il est quand même souvent à côté et il arrive à faire avancer l'enquête.
Et au final, l'enquête avance souvent par sa fille et Russell Crowe, en fait.
Et c'est pour ça que je trouvais que ça ressemblait aussi un peu à l'inspecteur Gadget, parce que non, justement il est pour rien dans un certain nombre de moments.
Et donc, en plus, là où j'ai trouvé, parce que bon, à un moment il y a la mort d'un personnage, moi, qui m'a surpris, en fait, parce que c'est un peu ça revient à relancer un peu l'histoire, parce qu'au final
toute l'histoire tournait autour d'elle,
et je trouvais ça fort parce que le film aurait pu perdre en intensité, enfin aurait pu devenir moins intéressant, et au final ça relance la machinerie. Alors moi personnellement, le film dure 2 heures, j'avais pas besoin de la relancer parce que moi j'ai pas trouvé un temps long dans la scène. Enfin, tous les personnages, la méchante, la Black, où Ryan Gosling est plus ou moins amoureux d'elle, et il voit même pas que c'est la méchante, en fait, et qu'il lui excuse tout ce qu'elle fait, parce que mais c'est pas vraiment toi, tu te ressembles pas. Enfin non, moi j'ai trouvé ça excellent, la scène finale où il court après la bobine aussi, il chute, c'est trop
fou. Non mais c'est génial, franchement c'est fini. Ce film est plein de petits moments qui sont vraiment géniaux. Je suis totalement d'accord avec toi, franchement j'ai passé un super moment avec ce film, plus que Kiss Kiss Bang Bang, parce que honnêtement je trouve que The Nice Guy est un Kiss Kiss Bang Bang amélioré, dans le sens où et je dis pas ça dans un sens péjoratif, dans le sens où le concept de base est très ressemblant.
C'est quasiment un copier-coller, c'est une suite, pour moi c'est une suite.
Ouais, une suite avec des personnages différents, oui, une enquête différente, et pas la même temporalité, puisque Kiss Kiss Bang Bang se passe dans les années 90 et là ça se passe dans les années 70.
Ouais.
Donc 77, c'est plus ou moins le même délire. Le scénario est aussi invraisemblable dans l'un comme dans l'autre. Oui. Voilà. Mais
avec des personnages complètement fous, quoi.
Avec des personnages complètement déjantés. Mais c'est ça qui est vachement
même,
bon.
Même les second rôle, le petit gamin à vélo.
Mais c'est ça qui est vachement bon, parce que dans le premier film, c'était Robert Downey Jr., Val Kilmer et Michelle Monaghan. Il n'y avait pas de gamine. Michelle Monaghan, c'était la love interest de Robert Downey Jr. Mais ça marche vraiment super bien, parce que les personnages sont des débiles. Surtout Robert Downey Jr., Val Kilmer, c'est le cerveau.
Et oui, Robert Downey, il a un côté un peu débile aussi.
Il a un côté un petit peu débile, mais c'est lui qui ramène un petit peu le truc sur le droit chemin. Autant que Russell Crowe fait avancer l'enquête par rapport à Ryan Gosling qui fait que des conneries. Voilà, Robert Downey Jr., c'est Ryan Gosling, en fait.
Mais oui, c'est ça.
Mais il y a quand même des choses qui ont changé. Je trouve que le film est plus resserré. Il n'y a pas véritablement de temps mort dans The Nice Guy. Alors, à l'opposé de Kiss Kiss Bang Bang, qui met, je trouve, beaucoup de temps à s'installer. Il y a les 20 premières minutes, voire la 30 premières minutes, qui sont assez laborieuses. Et il a fait aussi énormément de progrès au niveau de la photographie. Comme ce que j'ai dit pour la semaine dernière pour James Gunn, c'est un mec qui s'est fait connaître en étant que scénariste. À la base, réaliser, c'est pas son métier. Et sur son premier film, ça se sent. L'utilisation du sépia pour les souvenirs, on oublie. C'est moche. Autant que sur les photos, ça peut donner un petit grain, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, j'aime pas, mais ok, voilà. Mais alors, sur une vidéo numérique, sur un film, c'est affreux. Et je pense qu'il y a certains moments, il a dû travailler avec des éclairages naturels. Il devait avoir le soleil en pleine face, entre guillemets. Et du coup, il y a certains plans, il y a certains plans extérieurs en pleine journée. Où il y a une espèce d'immonde couleur jaune pisse sur l'image, c'est absolument affreusement moche.
Donc, 30 secondes, je t'interromps, parce que pour ceux qui sont intéressés, donc Kiss Kiss Bang Bang, il est sur Amazon Prime, et The Nice Guy, c'est sur Netflix.
Chacun le sien. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai préféré énormément The Nice Guy à Kiss Kiss Bang Bang, même si j'ai passé un bon moment. Parce qu'il a fait des progrès sur la photographie. La photographie est belle dans The Nice Guy. Et je trouve qu'il a retranscrit à fond le côté années 70 sans que ça fasse kitsch ou moche, en fait.
Non,
il te ressort les trucs à fleurs, les costards bariolés, colorés, pardon. Il travaille beaucoup sur le rose.
Petit cocorico, quand même, directeur de la photographie, c'est un Français. Philippe Rousselot.
Philippe Rousselot ?
Rousselot.
Rousselot, pardon. Eh bien, il a fait du bon boulot.
Ouais.
Voilà, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que Russell Crowe est peut-être celui qui est un petit peu en dessous, parce qu'au final, il reste que dans son rôle de taiseux, qui fronce les sourcils. Voilà.
Il est moins
intéressant, par contre, Ryan Gosling... Mais on avait besoin de ça pour que ça marche, marche. Il y en avait besoin qu'il y ait un badass. J'ai eu des problèmes, je suis sombre et tout. Tu l'as mieux fait que moi pour rouper une lumière, mais c'est un peu ça.
Il a moins de profondeur que l'autre personnage.
Oui, mais du coup, c'est ça qui permet d'explorer la profondeur. Ouais. Parce que si ce personnage n'était pas là, Ryan Gosling serait lourd.
Oui, ben
il est
oui.
là pour temporiser.
Il est là donc pour temporiser, mais parce qu'il va plus loin que Robert Downey Jr. Donc c'est autant ça équilibré dans Kiss Kiss Bang Bang, autant là il y a un déséquilibre qui fait qu'il y en a un qui est plus dans un sens et qui est l'autre qui.
Oui.
Mais ils sont plus
oui.
dans les extrêmes l'un comme l'autre.
Ah bah oui, totalement.
Et toi, Seb, t'en as pensé quoi?
Ben moi, je l'ai trouvé sympa, sauf que je l'ai un peu comparé à Kiss Kiss Bang Bang tout le long, parce que j'ai. Alors au début, je savais pas que c'était le réalisateur. Donc quand j'ai découvert le film, je fais. On dirait que Kiss Bang Bang. Et pendant tout le long du film, je me suis fait la même réflexion tout le long. Je fais, mais c'est Kiss Kiss Bang Bang quoi. C'est la suite quoi. Et donc j'ai revu Kiss Kiss Bang Bang après parce que je me suis dit attends c'est où j'ai déconné où j'ai voilà. Et vraiment oui c'est là c'est quasiment à part un certain nombre de choses qui sont différentes parce qu'effectivement il a pas copié collé son premier film. Mais ça reste quand même la structure est la même quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'est globalement la même structure avec quand même beaucoup de points communs. Il en a fait quelque chose de différent, certes. Il a amélioré un certain nombre de choses, heureusement.
Heureusement, oui.
Parce que c'était quand même son premier film, et là, il en est à son troisième. Il a su peut-être mieux s'entourer aussi. Effectivement, il est mieux. Mais est-ce qu'il avait besoin de refaire un film qui avait la même structure, qui disait des choses assez... Enfin, c'est pas ça dit pas exactement la même chose, mais c'est quand même des relations assez proches. Des sujets assez proches, donc je sais pas. Je sais pas si ça méritait de refaire un film exactement, enfin, sur des sujets assez proches. Bon.
Ouais, de toute façon, après, on peut dire, parce que quand on voit, je pense que ce film n'a pas marché. Hein,
non, il a pas marché.
Parce que d'ailleurs, la fin, on sent bien qu'il y aurait une suite, qu'il aurait pu y avoir une suite, parce qu'ils décident les deux de monter une agence.
Oui, et puis même.
Et ce que je veux dire, c'est que là où c'est. Alors, c'est triste qu'il n'ait pas marché pour le réalisateur. Parce que le film d'après c'était le remake de Predator. C'est pareil, il reste dans son univers.
Une fois, il le réalise, c'est-à-dire que autant
ouais,
Predator le premier,
l'ai
il
pas,
l'avait
pas
oui, non, mais si
mais
tu veux, je pense que.
Il s'est fait défoncer, ça donne
pas
envie de
je
le
vois
voir.
Pas, je vois non, pas pourquoi il a eu envie de faire ce remake-là.
Il a peut-être envie parce que c'est le film qui l'a fait le
ouais,
mieux
non,
connaître.
T'as envie
autant
de relancer,
les armes fatales qui étaient avant, il est quand même moins connu.
Enfin, moi, je pense à comme un aveu d'échec, c'est que ça a pas marché, donc on va essayer de remettre une franchise, de relancer une franchise.
C'est aussi peut-être parce que les producteurs lui ont proposé de faire ça et qu'il a pas forcément eu beaucoup de choix.
Oui, non, mais je pense aussi. Oui, oui.
Bah, tout compte fait, je pense que Shane Black est actuellement encore à nouveau au creux de la vague parce que mine de rien, il a
difficile.
Pas de projet depuis
oui,
ça.
C'est sûr.
C'est 2018 la sortie du dernier Predator.
Ouais, mais il y a même rien de prévu en fait. Hein.
Ouais, non, mais,
après c'est vrai que remarque, il y a 7 ans entre Iron Man 3 et Kiss Kiss Bang Bang, mais bon.
On verra bien.
L'avenir dira. Ouais. Ouais,
tu vois là le Kore-eda dont tu parlais tout à l'heure, il sort un film tous les ans.
Oui, Kore-eda, il a
un film tous les 8
ans. Oui, mais
c'est pas
le même style non plus.
Ouais.
Oui, mais même c'est pas le même style.
C'est pas Terrence Malick non plus, toi.
Oui, non, mais c'est pas le, c'est on faut après faut. Je pense qu'il faut pas comparer des mecs qui sont arrivés dans la réalisation. C'est des réalisateurs, c'est leur métier. Shane Black, même si ses films sont corrects, les trois que j'ai vus, j'ai pas vu The Predator et j'ai pas envie de le voir. Avant tout, c'est un scénariste et ça se ressent aussi dans ses films.
Et puis
c'est son scénario qui le distingue et qui fait que ah oui, c'est un film de Shane Black, c'est un scénario de Shane Black, c'est à ça qu'on le reconnaît. C'est
moi,
pas
il y a aussi un truc que j'ai bien aimé dans le film, en fait, c'est qu'il y a très peu de musique. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y avait très peu de musique
et
c'était
beaucoup
des dialogues en fait.
Non seulement de la musique créée pour le film, mais de la musique qui vient d'autres choses. Il y en a pas.
Ah ouais, tu vois, faut que je re-regarde.
La musique, c'est se taire au bon moment. C'est peut-être pour ça que tu l'oublies
ça,
en fait.
Ouais.
Et puis elle est bien amenée parce que quand c'est
amenée.
Des titres connus des années 70, ils sont plutôt bien amenés. Donc ouais.
Parce qu'il y a la scène
mention
de la fête.
Spéciale, Earth, Wind and Fire.
Ouais. Évidemment, il y a deux titres dedans de Earth, Wind and Fire qu'on retrouve exactement dans une BO aussi, qui est Intouchable. Exactement les mêmes titres qu'il y a dans Intouchable.
Je crois qu'on a fait le tour. Hein,
ouais. On va écouter justement Earth, Wind and Fire avec
la transition.
Avec
transition.
September.
transition.
Quand on t'appelle.
Eh ben, nous revoici à Je vais au ciné. Et on va enchaîner sur un film. Alors, qui veut parler d'un film ? Allez.
Bon, allez, je vais
vas-y.
Commencer. Donc, je vais aller dans la période rétro. Hein, de nous trois, c'est moi le plus rétro.
Vas-y.
Donc, on avait parlé dernièrement de... De la ligne
rouge
de Terrence Malick, en fait. Et donc, à l'époque, j'avais dit que c'était le seul film de Terrence Malick que j'avais vu. Et donc, depuis, j'en ai vu deux autres. Donc, j'ai vu
Le Nouveau Monde.
Le Nouveau Monde, donc, qui est son film d'après. Et suivi après de sa Palme d'Or, donc Tree of Life. Alors déjà, moi, j'aime bien sa narration. On disait que c'était un film de... C'est un cinéaste de montage et je pense que ça se reflète dans ces deux films-là parce que c'est un festival de faux raccords. Et moi, j'aime ça, en fait. Je trouve que ça donne un style et au final, quand il y en a pléthore, bon, ça devient plus du faux raccord, ça devient un style. Alors, il y a énormément de voix off dans Le Nouveau Monde. Donc, Le Nouveau Monde, pour faire simple, c'est Pocahontas. Hein. C'est l'histoire de Pocahontas. Le film se regarde, j'ai bien aimé. Alors la musique n'est pas aussi transcendante que dans La Ligne Rouge. Hein. Mais bon, c'était tellement bon La Ligne Rouge que ça doit être dur de faire mieux. Donc il y a deux acteurs et il y a moins de dialogue, on va dire. Donc là, il va dans un style épuré par rapport à La Ligne Rouge où il y avait pléthore d'acteurs. Là, on se retrouve avec deux acteurs, peu de dialogue, donc beaucoup de voix off. Forcément, ils ne parlent pas la même langue, ça s'explique. Je vous le conseille, regardez-le. Après... Dans sa filmographie, il y a The Tree of Life. Alors, comment dire The Tree of Life ? Je suis content de l'avoir vu. Alors là, on a toujours deux acteurs, on n'a plus tellement d'histoire. Hein. Ou alors, si, non, mais c'est faux, on a quand même une histoire. Hein. C'est une histoire, c'est au début du film, les parents perdent leur enfant. Ils ont trois enfants, en fait, et l'aîné meurt. Et on va voir comment...
C'est l'air gay.
Hein,
c'est l'air très
gay. Non, c'est assez pesant. Mais on voit surtout, en fait, les relations. Donc, le film, il y a donc le couple, c'est Brad Pitt, qui joue un père plutôt dur, d'ailleurs. Et l'actrice, je ne sais plus du tout qui c'est. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut chercher pendant que je continue à parler. Et donc, le fils, un des trois fils, c'est donc joué par Sean Penn. Et alors là, je pense que on est, pour moi, dans ma filmographie, 2001 de l'espace était le film le plus barré que j'ai pu voir. Et je pense que maintenant, il y a Tree of Life, en fait. Parce que pendant les 20 premières minutes, ça se tient, la narration. Et après, on part dans un trip. Mais pendant, je pense, peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure, je sais pas, moi, ça m'a paru très long. Où on voit la création de l'univers, là. On voit les dinosaures, il y a des scènes à la Jurassic Park, donc plutôt mal foutu. Enfin.
Il y a trop de choses.
Ah non, mais c'est honnêtement, je n'ai pas compris ce que j'ai vu, en fait. Enfin, et là où il a fait aussi, je trouve, son 2001, c'est qu'il a une utilisation de la musique. Alors même si Alexandre Desplat est crédité à la musique originale, une utilisation de la musique classique, en fait. Il y a plein de morceaux. Et en fait, donc dans son style épuré, on va dire, La Ligne Rouge, beaucoup d'acteurs. Le Nouveau Monde, peu d'acteurs. Encore peu de dialogue. Et Tree of Life, ben, des images. Des images avec des scénettes qui, des fois, on fait des sauts avec des ellipses. Enfin, c'est assez... la narration, moi, j'ai du mal à la comprendre. J'ai du mal à comprendre quel fils était mort, au final, parce que il nous manque plein de choses. Donc, je suis content de l'avoir vu. J'ai presque envie de voir son prochain film, parce que je pense que ça va être encore plus épuré. Donc, à un moment, on va arriver à un écran noir. Hein, je pense que voilà, deux heures d'écran noir.
Plus d'acteurs, plus rien.
Enfin, par contre, c'est toujours aussi beau, c'est toujours autant la nature. Mais d'ailleurs, il y a pareil dans Tree of Life, je pense qu'il doit y avoir aussi une réduction de budget parce qu'il y a peu de décors au final. C'est une maison et une rue et ça va pas plus loin.
Bah, il n'y a peut-être pas besoin.
Ouais, mais je pense qu'aussi, il y a un moment, c'est bien de partir dans des délires, mais je pense qu'il faut de l'argent pour financer tout ça. Tu vois, donc, d'un point de vue purement pécunier. Mais voilà, donc ces deux films sont disponibles sur Amazon. Franchement, je les conseille, même si, attention, Tree of Life, c'est... Sur un film de deux heures, je dois avouer que la deuxième heure, j'ai vraiment galéré. j'en pouvais vraiment plus.
L'actrice dans Tree of Life, c'est Jessica Chastain.
Ah oui, Jessica Chastain, ouais. qui est parfaite. Mais voilà, on voit Sean Penn qui marche dans la montagne, un désert montagneux.
Alors que je suis bien, Sean Penn, c'est le fils de Brad Pitt.
C'est le fils de Brad Pitt. Ouais, mais il y a en plus une...
Et une ellipse, parce qu'ils ont quasiment le même âge dans la vraie vie.
Deux histoires temporelles, donc si tu veux. Et à la fin, c'est un peu comme Lost, la série. Ils se retrouvent tous au même endroit, avec le fils qui est mort, la mère, elle est contente. C'est un peu la fin du monde, c'est un peu... Voilà, c'est...
Bah, je sais pas si tu l'as bien vendu pour nos auditeurs, mais moi tu m'as donné envie.
Je pense pas l'avoir bien vendu.
Ouais, je suis curieux.
Mais c'est le film le plus barré que j'ai vu. Hein. Franchement, je regrette pas de l'avoir vu, mais attention, c'est difficile. J'ai préféré voir ça que The Irishman.
Sur une échelle de films barrés qui va de 2001 l'Odyssée de l'espace à Somewhere.
Non, Somewhere c'est chiant.
Somewhere c'est pas barré. Quand tu prends une échelle, il te faut un truc bon et un truc mauvais.
Somewhere c'est pas barré. Somewhere c'est juste Somewhere. Chiant. Non, c'est pas barré.
On parle de Sofia Coppola.
non, c'est pas barré. Non, c'est un film.
Ça va être compliqué, tu vas être un peu seul.
Mais y a pas de problème. je fais l'émission tout seul. J'ai vu tous ces films. Y a pas de problème.
Je vous donc invite à regarder ce film-là. Entre. Tree of Life et Parasite, on sent que le festival de Cannes, il y a l'alpha et l'oméga.
Oui, mais au moins c'est diversifié.
Ah oui, on peut pas dire le contraire. Je l'aurais pas vu au ciné par contre, hein, parce que non.
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 Mais est-ce que ça se rapproche un peu du style un peu Claude Atlas?
Ah, j'ai pas vu.
T'as pas vu?
J'ai pas vu celui-là.
Ou c'est aussi une succession
de... Non, mais à un moment, dans 2001, Claude
Atlas, c'est des personnages qu'on suit à des temporalités différentes, en fait. C'est une histoire de réincarnation, en fait.
Bah, là, t'as une temporalité différente. En plus, ils ont grandi j'ai compris ça comme ça. Ils ont grandi, les enfants, dans une petite ville de campagne. Donc, ils allaient jouer près de l'eau, dans un lac ou une rivière. On ne sait pas trop. Enfin, une fois de plus, Terrence Malick, la nature. Et Sean Penn, une fois qu'il est adulte, il a des remords. Il repense en fait aux maltraitances qu'a subi le frère, je pense, qui doit être l'aîné, c'est lui qui doit être mort. Et il se retrouve en ville.
C'est fort, t'en es pas sûr.
Il se retrouve en ville, donc là, voilà, il a besoin de ce contact avec la nature. C'est pour ça qu'on le voit partir. Il fait son Into the Wild. Donc, je pense qu'on le voit pas, mais ça se trouve, il doit mourir à la fin, Sean Penn. J'en sais rien, parce qu'à la fin, ils se retrouvent tous. Celui qui est mort, il est vivant, sur une plage, une fois de plus, la nature. C'est très beau, hein. C'est très contemplatif, mais
D'accord.
Et la demi-heure ou trois quarts d'heure, je sais pas combien de temps ça a duré, où c'est que de la musique classique avec la création du monde, ça part dans des images, on voit la galaxie en fait. C'est joli, hein.
Mais voilà.
Suivant.
Ok, tu vas enchaîner
Je vais enchaîner. Bon, on va enchaîner avec un tout autre genre, avec le dernier film d'Olivier Assayas, qui s'appelle Cuban Network, qui est son deuxième film. Très espagnol après Carlos qu'il a fait une dizaine d'années si je ne m'abuse. Alors Cuban Network, c'est un film avec entre autres Edgar Ramirez, Penélope Cruz et Ana de Armas. C'est l'histoire de réfugiés cubains qui quittent Cuba pour se réfugier à Miami et organise des actions pour faire chuter le régime de Castro, en fait. Voilà. Globalement, c'est ça. Alors, ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est pas ouf.
D'accord. Pourtant, on retrouve Ana de Armas.
Oui, mais non. Ça suffit pas.
Ça suffit pas. C'est dommage.
Les acteurs font le taf, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt bien foutu. Mais ce film a un gros problème de narration.
Ah.
Le truc, c'est qu'il veut raconter beaucoup de choses et au final, il adopte un style de narration qui n'est pas linéaire. On fait des sauts dans le temps, on fait des bonds, on fait des retours en arrière et tout ça. Et au bout d'un moment, on a l'impression que le réalisateur, il ne sait plus où il va. Et des fois, c'est vraiment chaud à suivre. On se dit, alors attends, on en est où là? On est dans le futur, on est dans le passé. Là, je pige pas. Là, en plein milieu du film, on fait un saut 4 ans avant. qui
il paraît que c'est un peu le twist parce que toutes les critiques que j'ai entendues parlaient justement qu'au milieu du film, au moment où il y a un retournement de situation.
Oui, 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 il y a un gros twist qui fait que qui remet en cause tout ce qu'on a vu depuis le début du film, effectivement, qui je trouve est hyper mal amené d'ailleurs. Après, c'est pas un AV, c'est quand même un film qui est très correct, qui a le mérite de voir un sujet qui était intéressant. Moi personnellement, je connaissais pas du tout cette histoire de réfugiés cubains qui œuvrent à la chute du régime castriste. C'était intéressant, il prend pas parti, il montre bien les deux côtés, que ce soit le côté castriste que l'autre. De ce côté-là, il est franchement carton plein. Du coup, je me demande si c'était une histoire que je connaissais, si du coup j'aurais pas trouvé effectivement le film vraiment naze. C'est peut-être ça qui sauve le film, que j'ai trouvé le sujet intéressant et bien traité, mais en dehors de ça, voilà quoi.
Bon, pas plus que ça, vous n'aurez rien de plus.
C'est ça.
Bon, Seb, après, c'est de nous vendre un film qui va donner envie là. Parce que...
Eh ben alors, je vais peut-être pas vous vendre un film qui va vous donner envie, mais en tout cas, je vais vous parler de The Boat. Alors, The Boat, je sais pas dans quel. Oui, je pense que c'est The Boat en version française aussi. Ils sont pas embêtés. C'est
aucun rapport avec Das Boat.
Das Boat, non, rien à voir. Voilà. De Winston Azopardi et avec Joe Azopardi. Waouh, extraordinaire.
C'est une affaire de famille.
Oui.
Et oui.
Oui, parce que dans ce film, il y a que Joe Azopardi. Il y a personne d'autre. C'est un film où.
Il y a un clampin tout seul.
Oui, un clampin tout seul dans tout le film.
Et un requin. Ouch. Généralement qui va gagner.
Non. Là, en l'occurrence, c'est pas un requin, c'est un bateau.
C'est un buddy movie.
C'est un pêcheur qui va essayer de pêcher avec sa petite barque et puis il se retrouve dans le brouillard et dans le brouillard il trouve un voilier qui est perdu avec personne dessus.
Il y a des zombies ?
Et non.
Des nazis ?
Tu vas arriver à me laisser parler. Donc il se retrouve sur ce bateau et il se rend compte que sa barque n'est plus là. Et il se retrouve coincé finalement sur ce bateau en plein brouillard et il ne sait pas ce qui s'y passe sur ce bateau. Et finalement il se retrouve coincé dans ce bateau, mais vraiment coincé à l'intérieur du bateau et il essaye de s'en sortir de ce bateau. Il se demande si ce n'est pas le bateau qui essaye de le tuer ou s'il n'y a pas quelqu'un sur le bateau. Enfin, tout l'intérêt du film c'est de savoir comment il va s'en sortir. C'est que ça, c'est un huis clos où il est tout seul et il se bat contre un bateau, quelque chose d'inanimé. On ne sait pas s'il y a quelqu'un d'autre. On ne sait pas où ça va nous mener.
Quand tu es un bateau, tu as vite fait le tour.
Tu as vite fait le tour, sauf quand tu es coincé dedans.
Tu n'as que ça à faire au final.
Bah oui. Tout l'intérêt du film, c'est d'essayer de savoir où il veut en venir. On ne sait pas trop, même la fin, on ne sait pas trop pourquoi et comment et pourquoi ça se finit là-dessus. Bon. Ça se finit là-dessus, tu dis c'était bien, mais bon, faut aimer le genre, faut aimer les huis clos, faut aimer le genre maritime. Sorti de ça, y a pas grand-chose à en sortir.
C'est peut-être un ressort, parce que du coup, ce que tu nous en racontes, ça me fait penser un petit peu à un ressort du film de monstre, mais où le monstre est continuellement hors champ. En fait, on ne sait pas ce qui arrive au personnage. Un ressort de film d'horreur, en fait. Film d'angoisse, entre guillemets, où en fait, on ne voit jamais la menace et tout le film repose dessus, sur le fait qu'on ne voit pas la menace.
De toute façon, c'est un film où on ne voit jamais la menace. Donc, c'est un film qui tourne là-dessus. On se doute que... Enfin, on se pose des questions. On ne sait pas toujours s'il y a quelqu'un ou pas. À la fin, on commence à. À la fin, on n'est pas sûr.
Parce que, genre, un bateau dans l'océan perdu, déjà, la menace, t'es dessus, en fait.
Oui. En plus, dans le brouillard, tu te trompes dans le brouillard. T'as pas besoin de rajouter grand-chose de plus.
T'es seul perdu dans l'océan, c'est déjà suffisamment anxiogène pour pas avoir à rajouter.
Surtout que t'as des films où même au-delà de trouver un bateau en plein milieu de l'océan, t'as des skippers qui sont tout seuls. Et faut qu'il gère ce qui va se passer. Et rien qu'avec ça, tu peux faire un film.
Ah, tu peux faire, oui. C'est sûr.
Et ça, c'est fait. Et donc voilà, là, il a à la fois réussi et raté. C'est-à-dire qu'il a des bons côtés avec ce côté de tension, mais tu vois pas où il va en venir. Et même à la fin, tu vois toujours pas où il va en venir. Bon, c'est pas forcément un mauvais film, mais faut aimer ce style-là. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de regarder ce film ? C'est quoi qui t'a accroché ?
Bah, alors déjà, c'est parce que c'est un huis clos. J'aime bien les huis clos. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est une performance. C'est-à-dire que si l'acteur, il est mauvais, bah, ça va être mauvais. Si le scénario est bancal, bah, ça va être bancal. Donc, c'est un peu ce que je reproche au film. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est bancal, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il a fait... Enfin, où ils veulent en venir, c'est-à-dire... Pourquoi il a fait ce film-là ? Qu'est-ce qu'il voulait ? À part nous faire passer un moment et nous dire que t'as peut-être un bateau qui est un bateau fantôme à la Christine. Mais dans Christine, il y a un sujet, toi, en fond. Là, le sujet de fond, je vois pas. À part un bateau fantôme qui serait perdu, voilà.
Mais c'est peut-être juste j'ai pas vu le film. Je fais des pures suppositions. Ça peut être aussi un film où juste d'émotion, où en fait ça force un peu le spectateur à questionner son rapport à la peur de l'inconnu. Parce que mine de rien, tu vois pas, t'es perdu dans le noir, en gros, ça questionne notre peur de l'inconnu.
Oui, donc c'est possible.
Il y a des films qui n'ont pas d'autres ambitions que ça, et que du coup ne t'apportent pas de réponse pour que ce soit toi qui te pose une question.
Et puis c'est peut-être aussi un challenge marin, parce que c'est juste un pêcheur sur une barque qui se retrouve sur un voilier en plein milieu de rien, dans des conditions compliquées, avec des tas de galères. Effectivement, c'est aussi un challenge de s'en sortir vivant de cette affaire.
Ça me fait penser à un film que j'avais envie de voir. Que je peux toujours voir d'ailleurs, mais bon, je pense qu'il doit pas être facilement trouvable. Où c'était un, un pêcheur nord-coréen ou sud-coréen, je sais plus en fait, qui pêche et qui se fait dériver par le vent et qui arrive dans l'autre Corée en fait. Je crois que c'est le sud qui va au nord en fait. Et ça, c'est un film d'horreur, ça. Il se fait récupérer par le système et en fait, il doit prouver que c'est pas un espion, il doit prouver plein de choses et voilà, un bon sujet de film d'horreur.
Oui. Bah, un bon sujet de film tout court, parce que...
Oui, non, mais
c'est...
Mais il n'a même pas de page Wikipédia, ton film.
Non, il n'a pas de page Wikipédia. Il n'est pas... Et puis, c'est pas un réalisateur connu. Il n'y a pas d'acteur connu dedans. Enfin, voilà. Il est un peu anonyme comme film. Enfin, il n'a pas été... Il n'a pas tellement été vu. Je pense que c'est logique qu'il n'est pas connu et il n'a peut-être pas été beaucoup diffusé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il existe. Je vous en parle. Allez le voir si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas curieux, bah, n'y allez pas. Mais voilà, je trouvais que c'était un film intéressant à parler, parce que même les films sur les bateaux, il n'y en a pas tant que ça. Sur la mer et sur les bateaux, il n'y en a pas tant que ça. Donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.
La semaine prochaine.
Et bien, la semaine prochaine alors.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.